Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, la vie des profondeurs arctiques, Legault et l'opposition rencontrent au sommet et légitimité, planète bleue, idée verte, un bonus réparation pour réduire les déchets. Et 3R Valorisation collectionne les factures impayées. Bonne écoute.
La vie des profondeurs arctiques. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 janvier 2023 dans La Presse. Étudier la vie extraterrestre en Arctique. Non, ce n'est pas le synopsis d'une nouvelle version du film The Thing. Il s'agit d'une mission particulièrement compliquée vers une source hydrothermale située sous 5 mètres de glace et à 4 km de profondeur, dans l'Arctique, au nord du Groenland. En 2001, il y a eu une exploration de la dorsale de Gakel, qui s'étend entre le Groenland et l'ouest de la Russie. Une dorsale est une ligne contact entre deux plaques tectoniques s'éloignant l'une de l'autre. Surprise, on y a capté la signature caractéristique de fosses hydrothermales. Il s'agit de zones des fonds sous-marins où le magma souterrain entre en contact avec l'eau de mer. Nous ne pensions pas qu'il pouvait y avoir des fosses hydrothermales à cet endroit, parce que c'est la dorsale la plus lente du monde, explique Chris German, géophysicien à l'Institut océanique Woodhull, WHOI, au Massachusetts. Normalement, le magma n'est plus chaud quand il entre en contact avec l'eau de mer. M. German n'avait pas fini d'être étonné. Dans Nature Communications, fin octobre, il décrit comment la fosse hydrothermale Aurora, celle qui est sur la dorsale de Gakel, au nord du Groenland, est entourée de 10 à 100 fois plus de minéraux que prévu. On pensait que les fosses hydrothermales sur les dorsales lentes ne duraient que quelques siècles, mais Aurora existe depuis plusieurs milliers d'années, voire 10 000 ans. Ça veut dire qu'elle a produit en abondance des minerais comme le cuivre qui se retrouvent sur le fond de la mer autour d'Aurora, et donc que les projets de mines sous-marines sont beaucoup plus prometteurs que ce que l'on pensait. Une autre expédition à Aurora par la société norvégienne Rev Ocean, à l'été 2021, a davantage démontré le caractère exceptionnel de cette fosse hydrothermale arctique. On a découvert une espèce d'escargot qui n'avait été observée qu'en Antarctique, explique la biologiste Eva Ramirez Lodra de Rev Ocean. On se demande bien comment elles ont pu se retrouver aux antipodes de la Terre. Il y a aussi des espèces d'animaux et d'algues présentes bien plus au sud dans des fosses hydrothermales de l'Atlantique et du Pacifique. Comme Aurora est isolée par de nombreuses chaînes de montagnes sous-marines, ce n'est pas clair comment ces espèces ont pu y arriver. Rev Ocean a été fondée par un magnat des pêches de la Norvège. Les premières sources hydrothermales sous-marines ont été détectées en 1977 près des Galapagos. Contrairement à la photosynthèse, qui transforme la lumière du soleil en énergie, la chimiosynthèse soutenant la vie près de ces sources hydrothermales tire son énergie des éléments chimiques qui s'en échappent, notamment le soufre. Les sources hydrothermales doivent leur chaleur et leur composition chimique particulière au magma s'échappant des jointures des plaques tectoniques. En 2019, dans la revue Nature Ecology and Evolution, des chercheurs du Collège universitaire de Londres ont montré que la vie sur Terre aurait pu apparaître dans ces sources hydrothermales des profondeurs, puis en surface, avec une adaptation à la photosynthèse. Aurora est la seule fosse hydrothermale arctique. Auparavant, la fosse hydrothermale la plus nordique était le château de Loki, découverte en 2008 à l'extrême nord de l'Atlantique, entre le Groenland et la Norvège. les satellites Europe de Jupiter et Encelade de Saturne sont recouverts d'une couche de glace de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur sous laquelle des océans de 40 à 50 kilomètres de profondeur pourraient abriter la vie basée sur la chimiosynthèse. Étudier Aurora nous permet de comprendre de quoi aurait l'air la vie sur Europe ou Encelade, dit M. German. La photosynthèse y est impossible. Comme les missions Europa Clipper, prévues vers Europe en 2024, et Enceladus Orbiter and Lander vers Encelade, proposées le printemps dernier par l'Académie des sciences américaines, ne pourront pas percer cette chape de glace. Il faudra détecter la présence de vie extraterrestre autrement. Les gaz ne peuvent traverser la glace, mais la glace elle-même bouge et migre vers la surface, explique Mme Ramirez-Lodra. De plus, il y a à la surface d'Europe et d'Encelade des jets de glace qui proviennent probablement de fractures dans la glace. La NASA est donc très intéressée par la détection dans la glace de preuves de la chimiosynthèse. Les premières images d'Aurora en 2014 ont bien failli ne jamais être filmées. Nous avons cherché et cherché la fosse hydrothermale tout au long de la campagne d'un mois, explique M. German. Mais comme nous n'avions que 20 minutes chaque fois pour explorer une zone, nous ne trouvions pas. À la dernière plongée, nous avons fini par trouver et réussi à prendre moins d'une minute d'image. Le problème de l'exploration d'Aurora est que le navire scientifique ne peut pas faire du surplace, comme normalement lors d'explorations à grande profondeur en eau libre. L'utilisation des moteurs pour briser la glace est trop intense. On risquerait de briser le câble d'alimentation du robot sous-marin, dit M. German. En eau libre, on peut utiliser doucement les moteurs pour maintenir la position. Mais pour explorer Aurora, le navire coupe ses moteurs et dérive avec la glace. Une deuxième expédition de WHOI en 2019 a été nécessaire pour prendre des mesures sur Aurora. Les deux premières explorations de la fosse Aurora en 2014 et en 2019 ont utilisé un robot sans propulsion autonome, simplement tiré par le navire scientifique. L'été dernier, l'expédition de RevOcean s'est servie d'un robot motorisé, aussi baptisé Aurora, ce qui a permis d'étendre à 40 minutes le temps d'observation au-dessus de la fosse hydrothermale. La croisière de WHOI, prévue l'été prochain, fera un grand pas en avant avec le NERED UI, un robot doté non seulement de propulsion autonome, mais aussi de piles lui donnant une autonomie d'une dizaine d'heures. De cette manière, le seul lien nécessaire avec le navire est un câble de communication pour manipuler le bras robotique et les équipements d'échantillonnage, explique Michael Jacoba, l'ingénieur de WHOI qui a mis au point le NERED. Comme c'est un câble plus léger, nous pouvons avoir 20 km. Ça permettra au NERED de rester 2 à 3 heures au-dessus d'Aurora. Si nécessaire, le NERED peut même couper son câble de communication et retourner par lui-même jusqu'au navire. M. Jacoba pense que la technologie de NERED UI pourrait progresser jusqu'à un câble de communication de plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui pourrait permettre de percer la couche de glace d'Europe ou d'Encelade et d'explorer directement leurs océans. L'épaisseur de la glace à cet endroit de l'Arctique ne change pas beaucoup au fil des saisons, parce que le courant circulaire arctique fait s'y accumuler les banquises. La glace a toujours au moins un mètre d'épaisseur et peut atteindre 5 mètres. En 2019, nous avons dû faire un détour pour atteindre notre objectif parce qu'en ligne droite, la glace était trop épaisse pour le brise-glace norvégien qui nous accompagnait, dit M. German. 20 ans de découverte. 2000. La sonde Galileo détecte des signaux magnétiques d'un océan salé sur Europe. 2005. La sonde Cassini détecte des jets de glace indiquant la présence d'un océan sur Encelade. 2006. 2013, Hubble voit des jets de glace similaires sur Europe. 2017, Cassini détecte des preuves de chimiosynthèse sur Encelade. 400 degrés Celsius, température de l'eau près des sources hydrothermales. 100 mètres, largeur de la fosse hydrothermale Aurora. C'était « La vie des profondeurs arctiques », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 janvier 2023 dans La Presse.
Le go et l'opposition, rencontre au sommet et légitimité, un texte de Robert Dutrisac, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Les trois chefs des partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale, ainsi que le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, ont tous accepté l'invitation de François Legault de le rencontrer en tête-à-tête. Il ne fallait pas bouder son plaisir, si on peut dire, la stratégie de la chaise vide n'étant pas de mise. Si la rencontre avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, fut remise à la semaine du 23 janvier pour cause de maladie, les autres rencontres ont eu lieu dans un esprit de collaboration. Des chefs qui ont passé 7 heures et demie à échanger avec le premier ministre, entouré de quelques apparatchiks, c'est sans doute Éric Duhaime qui fut le plus ravi de ce dialogue constructif. Le chef conservateur en est même sorti avec une bonne nouvelle, celle de la création de 2 mini-hôpitaux privés où les patients pourront présenter leur carte d'assurance maladie pour obtenir des soins gratuits, laissant les cas complexes aux hôpitaux publics. C'est un point de convergence que notre parti a avec la CAQ, a affirmé Éric Duhaime à l'issue de la rencontre mardi. Il a tenté de convaincre François Legault d'autoriser l'extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, rappelant au chef caquiste que c'était une position qu'il défendait il y a 10 ans dans son livre « Cap sur un Québec gagnant, le projet Saint-Laurent ». Sans succès, François Legault est ailleurs, manifestement. Dans la foulée, Éric Duhaime lui a donné son indéfectible appui pour la construction de nouveaux barrages. Le chef conservateur, dont le parti n'a récolté aucun siège, même s'il a recueilli 13% des votes exprimés aux dernières élections, soit quelque 530 000 voix, s'est réjoui du fait que le premier ministre ait simplement accepté de le rencontrer, y voyant une forme de reconnaissance. Il ne ferait pas ça avec le parti culinaire, a dit l'ancien animateur de radio, avec humour. Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a qualifié de cordial sa rencontre avec le premier ministre, même s'il cherche à éviter qu'on le prenne pour un allié objectif du chef caquiste face aux libéraux. Lors du tête-à-tête, Gabriel Nadeau-Dubois a fait le choix pragmatique de présenter des propositions que François Legault pourrait trouver acceptables ou du moins ne pas rejeter du revers de la main. Il n'aurait servi à rien de revenir avec des engagements électoraux de Québec solidaire auxquels le chef caquiste s'oppose fermement, comme de lui demander d'appliquer des surtaxes sur les véhicules énergivores et un impôt sur les fortunes. Ainsi, Québec solidaire a réclamé du gouvernement des mesures qui apparaissent des plus raisonnables, soit de sommer les constructeurs automobiles de n'offrir que des véhicules électriques dès 2030, plutôt qu'en 2035, et d'accélérer l'électrification du transport des marchandises. Ou encore, d'exiger des entreprises aidées par l'État qu'elles adoptent graduellement des technologies vertes et de renflouer en urgence les sociétés de transport collectif qui sont en train de couper dans les services. Quant à la demande formulée par Gabriel Nadeau-Dubois de tenir une commission parlementaire sur le plan stratégique 2022-2026 d'Hydro-Québec, elle tombe sous le sens et pourrait même être élargie. C'est ce que propose d'ailleurs le Parti libéral du Québec, qui suggère de lancer une commission nationale itinérante sur l'énergie, une idée qui se défend compte tenu de l'importance des défis que pose la transition énergétique, son arrimage avec le développement économique et ses répercussions sociales. Lors de sa rencontre le 19 janvier avec le Premier ministre, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, a frappé sur des clous que les libéraux continueront d'enfoncer, les pénuries de main-d'œuvre et la livraison des services publics, que ce soit en santé, en éducation, dans les services de garde et dans le système de justice. Il faut dire que les élus libéraux, dont leur chef intérimaire, doivent rester en terrain connu et ne pourront pas y aller de propositions audacieuses. Ils doivent laisser au prochain chef libéral et aux membres qui le choisiront le soin de définir les orientations du parti. La tenue de ces rencontres est une excellente initiative du Premier ministre. C'est une reconnaissance que même si la coalition Avenir Québec a ravi plus de 70 % des sièges à l'Assemblée nationale, elle l'a fait avec une minorité des voix. Échanger avec les chefs des partis d'opposition et entendre leurs propositions renforce la légitimité du gouvernement. C'est aussi concourir à l'idée qu'en politique québécoise, adversaire ne rime pas avec ennemi. Évidemment, nous verrons ce qu'il restera de ce noble esprit de coopération quand ce qu'on appelle les hostilités reprendra au Salon Bleu. C'était Legault et l'opposition, rencontre au sommet et légitimité, un texte de Robert Dutrisac paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Planète bleue, idée verte. Un bonus réparation pour réduire les déchets. Un texte de Frédéric-Xavier Duhamel avec l'agence France Presse, paru le 22 décembre 2022 dans la presse. La France vient d'instaurer un bonus réparation pour les appareils électriques afin d'allonger la durée de vie des équipements et de réduire les déchets. Est-ce que le Québec devrait faire de même? Depuis la mi-décembre, les Français peuvent bénéficier d'un bonus pour faire réparer leurs appareils électriques, des sommes qui vont de 10 euros, environ 14 $ pour une bouilloire ou un grille-pain, à 45 euros, environ 65 $ pour un ordinateur. Une trentaine de types d'appareils sont admissibles pour l'instant en vertu d'une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, créant un fonds de réparation doté de 410 millions d'euros, environ 489 millions canadiens, pour 6 ans. D'autres s'ajouteront en 2024 et en 2025. Le financement de cette mesure est assuré par des industriels, par l'entremise d'éco-organismes chargés de gérer la fin de vie des appareils. Les consommateurs français peuvent donc se rendre chez l'un des 500 premiers réparateurs agréés et profiter d'une ristourne forfaitaire sur leur drone ou leur hotte en panne. Le nombre de réparateurs agréés sera graduellement étendu. 1500 sont espérés à l'horizon 2023 et 10 000 pour 2027. Un bon levier. On estime à 10 millions le nombre de réparations réalisées chaque année en France où circulent environ 1,5 milliard d'équipements électriques et électroniques. L'objectif est d'accroître ce volume de réparations de 20 %. C'est vraiment un bon levier, dit Sophie Bernard, professeure à Polytechnique Montréal et spécialiste de l'économie circulaire. Est-ce que le Québec devrait se doter d'une telle chose? Absolument, opine-t-elle. Notre système en ce moment est très peu construit pour la réparation, déplore la professeure Sophie Bernard. Il est, selon elle, nécessaire de reconnaître l'ampleur du problème et de s'ajuster en conséquence. Une étude d'Équiterr sur l'accès à la réparation au Canada, publiée en octobre 2022, suggère que moins de 19% de la population canadienne fait réparer ses appareils électroménagers et électroniques brisés, un taux qui monte à 25% au Québec. La fabrication de ces produits demande une grande quantité de ressources et leur courte durée de vie est problématique, souligne Équiterr. Leur réparation permet d'allonger leur durée de vie et ainsi limiter les impacts environnementaux et socio-économiques liés à leur fabrication. Les freins à la réparation pour les consommateurs notés par Équiterr incluent la perception que les produits sont irréparables et les coûts de réparation. Les réparateurs québécois, eux, souhaitent avoir un meilleur accès aux pièces de remplacement et aux manuels des appareils qu'ils réparent, en plus d'incitatifs financiers pour favoriser ce choix chez les consommateurs. Selon Julian Guzman, copropriétaire de Réparation Flash à Montréal, c'est le manque d'informations et les coûts prohibitifs qui font en sorte que les gens ne font pas réparer plus souvent leurs appareils. Si la France crée cette mesure d'encouragement pour aider les gens, c'est certain que ça va aider, dit-il. Le réparateur affirme que la vaste majorité des électroménagers peuvent être réparés, mais que les gens ne sont pas toujours au courant. Ils peuvent aussi préférer acheter du neuf en raison des soldes, omniprésents pendant le temps des fêtes. Mieux informer les consommateurs. En plus du bonus réparation, un indice de réparabilité est mis en place progressivement en France sur certains équipements afin d'aider le consommateur dans son choix au moment de l'achat. Ça, c'est un outil puissant parce que ça envoie des signaux à tout le monde, dit Sophie Bernard. D'une part, le consommateur peut faire un choix plus éclairé et d'autre part, le producteur dispose d'une mesure d'encouragement potentiellement monnayable pour améliorer la réparabilité de ses produits. Dans la foulée de son étude, Équiterr recommande justement de faciliter le recours à la réparation au Québec, notamment par des mesures d'éco-fiscalité et la mise en place d'un indice de durabilité. Interrogé, à savoir si le Québec compte emboîter le pas à la France, le cabinet du ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, répond simplement que la question sera étudiée le moment venu. La démarche sera faite en concertation avec nos partenaires, dont Recyc Québec, précise son attaché de presse Mélina Jalbert. Recyc Québec indique pour sa part suivre activement le dossier de la réparation depuis quelques années. Il nous fera plaisir de collaborer avec les différents ministères et organismes si une initiative réglementaire ou législative en ce sens venait à germer, dit la porte-parole Véronique Boulanger. C'était Planète bleue, idée verte, un bonus réparation pour réduire les déchets, un texte de Frédéric-Xavier Duhamel avec l'agence France Presse paru le 22 décembre 2022 dans La Presse.
Valorisation collectionne les factures impayées, un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. 3R Valorisation, qui envisage actuellement de vendre ses actifs, collectionne les factures impayées, a découvert Le Devoir en épluchant des actes notariés publics. Parmi les nombreux créanciers, on trouve la Ville de Montréal-Est, qui a déposé en septembre dernier un avis de vente pour taxes foncières impayées pour l'année 2021. Cet automne, Revenu Québec a, pour sa part, inscrit une hypothèque légale pour une somme impayée de 519 000 $. Idem pour la Banque de développement du Canada, qui a réclamé des sommes impayées atteignant 76 000 $. Ajoutons à cela que la Banque Laurentienne a cédé en décembre 2020 une créance hypothécaire de 3R valorisation de plus de 760 000 $ à l'homme d'affaires Lior Azerad. Aujourd'hui conseiller municipal à la ville de Côte-Saint-Luc, M. Azerad est alors devenu titulaire d'une hypothèque de plus d'un million de $ portant un taux d'intérêt annuel de 12 %. Au devoir, M. Azerad concède avoir envisagé de s'impliquer dans l'entreprise, mais j'ai décidé de juste prêter, et là maintenant, je ne suis que créancier. Questionné sur les dettes et les manquements environnementaux répétés de l'entreprise, il répond « C'est justement ça. J'essaie de protéger ma créance et sortir. » Ellipse. « J'essaie de régler ça le plus vite possible. » Tout comme l'avocat de 3R Valorisation, maître Carl-Emmanuel Harrison, lui aussi confirme les démarches de l'entreprise pour se départir de ses actifs. C'était 3R Valorisation collectionne les factures impayées, un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Édine Lamarche à la lecture, Francine Thériault et Suzanne Beauchamp à la recherche, Nicolas Hortman à la présentation et au montage.